Il est 18h, c'est l'heure des informations de ce jeudi 7 janvier 2021. D'humeur ce matin des élèves du complexe d'enseignement secondaire Bagalam de Maradi, ils exigent un terrain pour leurs séances d'éducation physique et sportive. Sport football, le MENA A' du Niger a battu lundi l'équipe camerounaise sur le score de 2-1, à suivre l'entraîneur Doula Harouna dans ce journal. En partie magazine, remontons le temps pour comprendre les relations amoureuses dans les temps anciens. Au micro, Hawa Maman, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier en vidéoconférence où il a évoqué les défis du maintien de la paix et de la sécurité dans les contextes fragiles. Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a pris part, a expliqué que les conflits, le terrorisme, les pandémies, les déplacements forcés, les catastrophes prennent souvent racine de la vulnérabilité. Si rien n'est fait dès aujourd'hui, 80% des pauvres de la planète pourraient vivre dans des contextes fragiles. C'est pourquoi Issoufou Mahamadou a demandé à la communauté internationale de se mobiliser pour aider les pays du Sahel et du lac Tchad à sortir de ce contexte fragile dont les premières victimes sont les femmes et les enfants. Ce matin à Maradi, les élèves du complexe d'enseignement secondaire Bagalam, avec plus de 6000 élèves, ont marché de leur établissement au siège du gouvernorat. Depuis lundi dernier, ils observent une grève pour exiger un terrain pour les séances d'éducation physique et sportive. Le secrétaire général du syndicat des élèves, Mamadou Shahirou, explique au micro de Mohamed Maman.
C'est sur ces terrains de football du stade régional que nous faisons l'éducation physique et sportive depuis 4 mois après la rentrée scolaire. Cela fait 3 ans que nous rencontrons les difficultés du terrain DPS. Il faut que nous manifestions avant d'en avoir. Nous voulons qu'on nous identifie un terrain DPS propre à nous. Nous n'avons pas rencontré le gouverneur, mais nous avons été reçus par ses collaborateurs. Il nous a indiqué que notre problème est résolu et ils vont notifier cela à notre proviseur. Nous avons des candidats au BPC. Si nous ne trouvons pas un terrain DPS, qu'allons-nous faire alors?
Après 2 semaines de congé décrété par le gouvernement pour cause de COVID-19, les cours ont repris le 4 janvier dernier comme prévu à Tilia, région d'Ottawa. Le point focal de l'inspection primaire de la commune évoque les problèmes que rencontrent ces écoles pour appliquer les gestes barrières. Alousseini Azenzim est joint au téléphone par Fanta Chamsou.
La reprise est effectivement à Tilier, au niveau chef-lieu de la commune, le 4 janvier comme prévu. Et tout aux alentours aussi, les autres écoles de l'inspection aussi ont pu retourner au niveau des écoles. Donc, malgré vraiment quelques incidents survenus, donc juste avant la rentrée, donc, on a une de nos écoles, une localité située à 45 km donc, du chef-lieu, où des assaillants sont venus attaquer vraiment de paisibles citoyens. Donc, il y a eu des victimes malheureusement. Présentement, les élèves de cette école se sont dirigés vers le chef-lieu de la commune, y compris la population. C'est la seule école vraiment, après cette reprise, donc, qui n'a pas pu rouvrir à cause de l'insécurité. Donc, à part ça, il y a d'autres écoles sur la frontière. Ça, c'est depuis l'année passée que ces écoles-là sont formées. Tous ces élèves-là sont recensés maintenant au niveau des gros centres. Par rapport à même la pandémie COVID-19, au niveau donc, des écoles rurales, le problème que nous rencontrons dans les écoles, vous savez, là où on parle de lavage des mains, autres, alors que dans ces écoles-là, même l'eau pour boire, c'est un problème.
Aux États-Unis, des partisans du président américain sortant Donald Trump ont envahi hier mercredi le Capitole, siège du Congrès américain. Ils ont interrompu la session qui devait certifier la victoire de Joe Biden, une situation que l'analyste nigérien Mohamed Bachar qualifie d'insurrectionnelle et d'inacceptable.
C'est un constat de déviation qui est ici établi dans le comportement de M. Trump et ses partisans qui peinent à accepter le résultat d'un processus auquel lui-même il a participé et auquel l'ensemble des institutions républicaines du pays ont certifié qu'il s'agit d'un processus normatif. C'est tout à fait surprenant qu'une partie de ceux qui ont participé à ce processus électoral-là puisse choisir cette voie, ce mécanisme assez insurrectionnel pour vouloir mettre à mal la démocratie américaine qui est perçue de par le monde comme une des plus vieilles et comme une des plus sûres parce que les institutions sont plus fortes là-bas que les individus.
Des propos recueillis par Mokhtar Amadou. En Centrafrique, 10 candidats de l'opposition ont demandé mardi l'annulation des résultats de la présidentielle du 27 décembre 2020. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est réélu dès le premier tour avec plus de 53% des voix. À ce jour, quelle est la situation qui prévaut dans la capitale Bangui? Écoutons Bruce Landry, le rédacteur en chef de la radio Ndeke Luka de la Fondation Hirondelle.
La Cour constitutionnelle va commencer à statuer sur ces recours-là et puis elle donnera donc sa décision finale le 19 janvier. Bon, dans la ville de Bangui, les activités ont repris, les gens vaquent à leurs occupations, les transports ont repris, les marchés. C'est seulement dans les zones contrôlées aujourd'hui par les groupes armés que les activités sont complètement paralysées. La psychose règne toujours. Les gens ont peur, il y en a qui sont encore en brousse, qui n'ont pas regagné leurs habitations parce qu'ils ne sont pas rassurés avec la présence des groupes armés. Le jour même de la proclamation de la présidentielle, la nuit, il y a eu quelques manifestations des partisans du président Touadéra devant le siège du parti. Mais après cela, il n'y a pas eu de manifestations dans la capitale. Les quelques manifestations qui ont eu lieu, c'est des marches pacifiques pour dire non à la rébellion, non à la prise du pouvoir par les armes.
L'un des objectifs de la démocratie est d'assurer la protection des peuples et l'égalité entre les membres d'une communauté. Quelles sont les limites de l'exercice de la démocratie dans des pays confrontés à l'insécurité? Abdrahmane Idrissa, enseignant-chercheur à l'Université de Leiden en Hollande et chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales, LASDEL.
Dans les zones déjà où il y a des conflits, c'est très difficile de parler de démocratie puisqu'on ne peut pas organiser un processus électoral là-bas. Les élus locaux sont en danger. Et en par-dessus tout cela, nous avons cette histoire d'état d'urgence qui est aussi quand même un problème pour la démocratie puisque le pouvoir est concentré maintenant au niveau de la défense nationale. Et dans un tel contexte, les droits citoyens sont aisément bafoués. Mais ça, c'est vrai pour les régions qui sont frappés par les conflits. Mais c'est aussi vrai en réalité pour l'ensemble du pays, même les régions où il n'y a pas de conflit, puisque les décisions qui sont prises de cette façon-là et qui mettent en péril la démocratie, elles vont avoir un impact ailleurs aussi.
Des propos recueillis par Olivier Assogbavi. L'équipe de football à prime du Niger a battu lundi celle du Cameroun par un score de 2-1 à Yaoundé. C'était dans le cadre d'un mini-tournoi dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui débutera le 16 janvier prochain au Cameroun. Harouna Doula, l'entraîneur de l'équipe nigérienne, joint au téléphone par Mokhtar Amadou.
Dans ce match où on était pratiquement diminué parce que notre défense, l'axe central, était carrément décimé. On avait des blessés et puis le dernier est pris par le Covid. On était obligé de jouer en adaptant, en se réorganisant. Et je pense que cette réorganisation m'a donné entièrement satisfaction parce que j'avais des soucis quant à notre capacité à défendre. Mais on a mieux défendu que dans le premier match où pratiquement on avait tous les joueurs à leur poste. On était bien organisé défensivement, en bloc, assez bas. On a récupéré beaucoup de ballons. Dans ces ballons récupérés, on a pu contrer par deux fois pour non seulement marquer le premier but et les obliger, les amener à la faute qui nous a donné le penalty pour marquer ce deuxième but. Vraiment, c'est une entière satisfaction et j'ai été agréablement surpris par le repositionnement de certains joueurs quant à leur capacité à animer, à jouer, des fonctions et des rôles auxquels ils n'étaient pas véritablement destinés.
Le cinéaste Inoussa Ousseini est décédé mardi dernier à Paris à l'âge de 72 ans. Il était ancien ministre de la Communication, ancien ambassadeur du Niger auprès de l'UNESCO. Inoussa Ousseini était l'initiateur du festival Forum du film documentaire africain de Niamey. Son film La Sangsue a décroché le prix de la critique au festival panafricain du cinéma de Ouagadougou Fespaco en 1976. Pendant près de 15 ans, le cinéaste Sani Mogouri, directeur du Centre national de la cinématographie du Niger, a côtoyé cet homme qui a aimé la culture nigérienne. Sani Mogouri est joint au téléphone par Rukayatou Abdraman.
On a travaillé ensemble pendant presque 15 ans, en 2008. Quand j'ai signé mon premier film, Inoussa a été ambassadeur à Paris. Il cherchait un film pour la deuxième édition du Forum. Quand il m'a appelé, effectivement, mon film en montage, je l'ai envoyé. Et il a trouvé que le film est très bien et on a commencé à travailler. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime le cinéma, au-delà, qui aime la culture nigérienne et qui est prêt à tout, en tout cas pour pouvoir donner à la culture sa place. Partant de ça, donc, quand il a créé le Forum, c'est vraiment pour permettre aux gens qui n'ont jamais touché à la caméra et mais qui voulaient faire le cinéma de pouvoir vraiment trouver en tout cas un cadre d'échange, de partage pour pouvoir nourrir leur ambition. Je pense que ce vide-là, on va l'avoir parce que honnêtement, il n'y a pas quelqu'un comme Inoussa qui a une promptitude, qui a un certain éveil intellectuel de pouvoir anticiper les choses et de se battre pour réussir cette chose-là.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À travers les générations, les rencontres amoureuses évoluent. Quelques années auparavant, les jeunes filles avaient des attitudes et comportements que celles d'aujourd'hui ont délaissés. Olivia Sogbavi est allée à la découverte des anciennes pratiques avec Aï Abdou, âgée d'une cinquantaine d'années. Un voyage à travers le temps.
Pour comprendre comment les relations amoureuses sont vécues auparavant, nous avons rencontré Aï Abdou, une dame âgée, la cinquantaine bien sonnée. Elle vit dans le village de Koremeroa. Elle nous raconte comment les rencontres amoureuses se faisaient avant.
Les relations amoureuses d'avant des jeunes filles et garçons sont différentes de celles d'aujourd'hui. Avant, ce sont les parents qui interviennent. Souvent, c'est lors des rencontres de jeux sur les grandes places que le garçon voit la fille et tombe amoureux. Et aussi, lors des jeux nocturnes avec les danses et les chants. Quand les jeunes filles entrent en scène, c'est de là que quelqu'un peut repérer une. Avant, il est très difficile de voir une fille flirter avec un garçon. Tout ce qu'elle fait, c'est rester chez elle. Car si on fixe la date de ton mariage, tu fuis même de la maison et faut qu'on part à ta recherche pour te ramener.
C'est Antaruka, Ankaruka.
Aï explique qu'au fil du temps, le contrôle parental est devenu plus compliqué. Selon elle, avec le téléphone et les rencontres clandestines, contrôler sa fille est un véritable défi. Par ailleurs, elle souligne que les filles d'aujourd'hui n'ont pas froid aux yeux.
Maintenant, c'est le téléphone portable. On est assise, elle appelle le garçon. On ne comprend rien de ce qu'elle raconte. Et puis avant, quelle que soit ton impolitesse, si on amène ta dot là, elle est présente, tu n'y prêtes même pas attention. Tu fuis en pleurs. Maintenant, c'est la jeune fille qui dit à sa mère, « Remets-moi ma dot. » Donc, il y a une différence dans cette affaire de génération.
Du temps de Aï Abdou, les filles négligeaient l'école. Mais aujourd'hui, Aï arrive à expliquer à ses enfants de prioriser les études plus que les histoires de cœur.
Maintenant, on a donné de la force à l'éducation. Avant, ce n'était pas le cas. Si on remarque que l'enfant a pris le téléphone et fait un appel qu'il ne fallait pas, ou bien voir quelqu'un de pas convenable à notre porte, moi, j'appelle la jeune fille et lui demande de se concentrer sur ses études parce que c'est le principal et le plus important dans la vie d'une jeune fille. C'est comme ça que je procède avec mes enfants. Partout où je vais, je reviens les trouver plongés dans leur révision.
À travers les générations, les histoires d'amour ont changé. Et certains parents se sentent dépassés par les réalités de la technologie et la ruse de leurs enfants pour joindre leurs amoureux. Malgré tout, certains parents tapent du poing sur la table pour assurer l'éducation de leurs enfants.
Le forum d'aujourd'hui parle du transport des étudiants par les bus universitaires en ces temps de Covid-19, présenté par Al-Mustapha Bakim Batouré. Très bonne réception.